Amen. Voilà, on est heureux de pouvoir partager la parole de Dieu. Hein, pensons bien qu'il y en a des milliers qui ne peuvent pas partager la parole de Dieu, si ce n'est au péril de leur vie, se cachant, fuyant ou pas, n'ayant pas accès à la parole. Mais béni soit le Seigneur, nous on est libres de le faire. Voilà, c'est une joie. Je ne sais pas s'ils voient là, ça va ? Bonjour à ceux qui sont sur Zoom. Je pense, je ne sais pas si monsieur, madame, Guillaume, peut-être ils sont. Que Dieu vous bénisse dans votre santé. On vous salue bien fraternellement. Puis les autres aussi de la Méridienne, peut-être, frères et sœurs, qui sont connectés le dimanche. On vous bénit aussi dans le Seigneur. On est heureux aussi de pouvoir vous accueillir, vous qui êtes de passage, qui êtes là, ou qui revenez de temps en temps nous voir. Que Dieu parle à vos cœurs, que Dieu parle à nos cœurs. Hein, c'est là notre joie. Ce matin, quelques annonces avant de partager la parole. On va faire aussi l'onction d'huile à une sœur, juste après les annonces. Cet après-midi, je vous rappelle qu'à 15h, on a une tendre rencontre à Montredon-la-Bessonnier. Excusez-moi, j'ai un chat depuis ce matin. C'est hier, j'ai prêché à 15h. Je sais que certains vont peut-être aussi ont demandé de pouvoir rester manger le midi ici. C'est possible, vous pouvez rester là. Bien sûr, vous évitez de taguer les murs avec du ketchup et tout ça. Hein, on évite tout ça, vous le savez. Mais si vous restez là, sachez qu'on ne peut pas être plus de 80 là-haut, hein, sur la plateforme, sur le premier étage. Hein. Donc, si vous n'êtes pas nombreux, vous mangez là-haut. Sinon, on mange là, mais ça veut dire qu'à 14h30, tout est nickel, prêt à assumer, sans que ça sente pas, hein, je disais la merguez et toutes ces choses dans la salle, ça serait bien de aérer un peu avant, parce qu'il faut se dire qu'est-ce qu'ils font dans cette église. Hein. Voilà, donc inviter, c'est l'occasion, beaucoup de personnes se sont surpris qu'on baptise adultes par immersion, ils ne comprennent pas, par curiosité, invitez-les, ils sont curieux, ben invitez-les, et on croit que Dieu veut sauver d'autres personnes, hein, attirer des âmes à lui. Voilà, on va pratiquer l'onction d'huile sur notre sœur Josiane. Hein, si vous voulez venir devant, et il y a deux frères qui vont vous oindre au nom du Seigneur. Oh le Dieu, cette épée à double tranchant. Elle est là, elle vient, elle touche nos cœurs, elle nous bénit, mais elle nous éclaire. Des fois, elle enlève, elle ôte certaines choses. Alors ce matin, on veut partager la parole de Dieu. Est-ce que quelqu'un ici ne désire pas recevoir un message de Dieu ce matin ? Si vous leviez la main, vous seriez gêné. Donc, je suis sûr que si on est tous venus, même si des fois on peut venir chargé et fatigué, ou avec des soucis, ou des tracas, ou des impasses qui sont là, des incompréhensions, si on vient ainsi, mais avec un cœur qui s'ouvre à Dieu, Dieu se parle d'une manière ou d'une autre. Dieu nous encourage ou nous relève. Et même s'il ne nous parle pas par une parole directe, je dirais claire et nette, il y a ce baume de Dieu sur nos vies. Dieu nous fait grâce. Dieu nous fait grâce. Et je vais vous inviter à lire avec moi dans le prophète Osée. Juste deux versets dans le prophète Osée. Le seul problème, c'est que selon votre découpage dans la Bible, il sera ou au verset 6 ou au verset 8. Hein, mais ce n'est pas grave. Osée, chapitre 2, verset 6 ou 8. Ça commence par « c'est pourquoi ». Hein, ça commence par « c'est pourquoi ». Osée, chapitre 2, versets 8 et 9. Un passage qui va, à la première lecture, vous paraître un peu intrigant, un peu spécial, ce qui est normal. Osée, chapitre 2, versets 8 et 9. Honnêtement, je pense concrètement que ça parle à quelqu'un, Dieu, comment dire, quelqu'un a une réponse précise, je crois que ce passage est pour vous. Mais voilà, mais ça parlera, je crois, à chacun d'entre nous. 2, versets 8 et 9. C'est pourquoi, c'est Dieu qui parle au travers du prophète. J'attends, peut-être j'entends encore des feuilles qui tournent. C'est pourquoi, voici, je vais fermer son chemin avec des épines et y élever un mur, afin qu'elle ne se trouve plus sur ses sentiers. Elle poursuivra ses amants et ne les atteindra pas. Elle les cherchera et ne les trouvera pas. Puis elle dira, j'irai et je retournerai vers mon premier mari, car alors j'étais plus heureuse que maintenant. Amen. J'ai déjà prêché il y a quelques mois en arrière sur le prophète Osée, sur cette position de son épouse Gomer avec Osée. Et ici, il parle bien sûr de cette infidélité. En fait, au travers de ce récit, nous avons, et au travers du prophète Osée, une illustration de sa femme, une illustration de l'infidélité spirituelle du peuple d'Israël à l'égard de Dieu. Et tout le quoi, une grande partie du prophète Osée, c'est cette relation maritale qu'il a avec son épouse Gomer, et qui elle va devenir infidèle. Et ici, bien sûr, c'est pourquoi c'est retranscrit, c'est pour faire comprendre que le peuple d'Israël, au fur et à mesure du temps qui passe, est devenu infidèle souvent quant à Dieu. Et quand Dieu parle, c'est pas pour seulement dire, ben, parce que tu es infidèle, je te maudis ou je te renie. Et parfois, il dira des phrases très dures qui nous touchent, mais vous remarquerez qu'ici, il y a quelque chose qui paraît dur au départ. Hein, je fais fermer son chemin avec des épines et il lui a fait un mur afin qu'elle trouve plus son sentier. Mais la finalité, le but de tout ça, c'est qu'elle puisse dire, j'irai, je retournerai vers mon premier mari, car alors j'étais plus heureuse que maintenant. Dieu dit quelque part au peuple d'Israël et dit, j'en ai assez que vous soyez idolâtres, que vous partiez un peu de droite et de gauche, mais que vous ne soyez pas fidèles. Aussi, je mets des barrières, je vais mettre un mur, je vais mettre des épines pour que vous reveniez vers moi. Et dans la parole, il y a toujours cette réalité du désir de Dieu qu'il poursuit pour l'humanité, pour chacun d'entre nous. Alors, au travers de ce récit, je veux rappeler plusieurs vérités bibliques, je crois qu'ils sont essentielles pour notre foi. La première ici, je dirais qu'on voit, c'est que malgré les menaces, malgré ce que Dieu dit, qui est dur, qui est peut-être, carré, qui est peut-être exigeant, qui est un peu comme une menace pour le peuple, il y a toujours une, je dirais, parenthèse de miséricorde, dirons-nous. Il y a toujours quelque chose d'extraordinaire. Plusieurs de pensées, et je le conçois qu'on puisse penser ça, que l'Ancien Testament ne contient que des événements dramatiques, douloureux, terribles, des jugements, des temps jalonnés de jugements, de châtiments de Dieu, parce que, et c'est vrai, il y a cela. Mais s'il est vrai qu'on retrouve ces événements terribles, s'il est vrai qu'on voit ces choses écrites, claires, définies, on peut le lire facilement, on peut essayer d'aller chercher les contextes, etc. Il n'en est pas moins vrai que l'on trouve également plusieurs parenthèses de miséricorde, je ne sais pas s'il faut dire comme ça, plusieurs exemples de miséricorde et de grâce. Alléluia, hein ? Et c'est vrai que ça paraît dur souvent, mais Dieu le fait pour bénir et non pas pour détruire. Dieu permet certains moments difficiles. Regardez cette parenthèse de miséricorde, l'exemple de Rahab. Rahab, elle est là, vivant à Jéricho, sur cette muraille. Elle a un métier qui n'est pas très honorable. Je ne sais pas si c'est un métier. Elle est prostituée. Mais de par sa position, du fait qu'elle reçoive les deux espions et qu'elle les protège, etc., cette femme va être épargnée, elle et toute sa famille, tous ceux qui vont venir sous son toit, parce qu'elle a compris que le Dieu d'Israël a été agissant, elle a respecté certaines choses et elle a accepté de quelque part trahir un petit peu ce peuple avec qui elle vivait, parce qu'elle avait percevé, probablement, je ne sais pas, quelque chose de profond dans le peuple d'Israël. Et cette femme, Rahab, non seulement a été intégrée par la suite, protégée, intégrée dans le peuple de Dieu, mais elle devient une ancêtre de Jésus. Et nous voyons bien que Dieu, dans son plan, est parfois, et dans l'Ancien Testament, assez, et même dans le Nouveau, assez exigeant ou dur, mettant des bornes, mettant des limites, mais c'est toujours dans un but de salut et de vie. Les Ruth, cette étrangère, cette Moabite, cette femme qui était issue de cette nation qui, bien sûr, je vous l'ai déjà dit, on a déjà parlé il n'y a pas longtemps aussi, hein, du fait que des fois on pense que c'est mieux ailleurs, mais Dieu veut qu'on soit mieux dans notre cœur. Ruth, cette étrangère, cette Moabite, elle avait est issue de ce peuple qui avait refusé de donner du pain quand le peuple d'Israël sortait d'Égypte, mais aussi ils ont fait venir Balaam pour qu'il maudisse Israël, qu'il se mette là et qu'il maudisse. Il y a tout un cursus, je dirais, un peu néfaste et négatif, d'où cette notion que Dieu va le reprendre. Mais elle aussi, par son attitude, révèle que ce qui est impossible de concevoir, ce qui est impossible de, on ne pouvait pas le percevoir ainsi, mais même les religieux les plus proches de Dieu à ce moment-là, ils ne pouvaient certainement pas capter ces choses-là, mais il y a une réalité, ce qui était impossible de concevoir devient réalité. Elle non seulement elle-même intégrée au peuple d'Israël, encore une fois, on voit la miséricorde de Dieu, et cette femme, Ruth, va se marier avec Boaz, est une ancêtre de David, etc. Et donc, de ce fait, une femme de la lignée des ancêtres de Jésus. La parenthèse de miséricorde au milieu de plusieurs menaces. Laissez-moi en citer une autre que vous connaissez. C'est ce roi de Juda
qui a eu le plus long règne, 55 ans, il s'appelle Manassé. Ce roi, il est terrible. Voici ce qu'il nous est dit le concernant. Il bâtit des hôtels à toute l'armée des cieux de roi 21, hein, je vous le lis. À toute l'armée des cieux, dans les deux parvis de la maison de l'Éternel. Vous rendez compte, il bafoue le temple de Dieu. Il fit passer son fils par le feu. C'était des sacrifices humains, son fils. Quelle folie. Il observait les nuages et les serpents pour en tirer des pronostics. Et il établit des gens qui évoquaient les esprits qui prédisaient l'avenir. Il fit de plus en plus ce qui est mal aux yeux de l'Éternel afin de l'irriter. Il mit l'idole d'Astarté qu'il avait faite dans la maison de laquelle l'Éternel avait dit à Salomon, à son fils, et dans cette maison, et c'est dans Jérusalem que j'ai choisi parmi toutes les tribus que je veux à toujours placer mon nom. Vous voyez bien, on voit bien ici, ce roi Manassé, il est là pour offenser Dieu. Cette phrase est surprenante. Il fait de plus en plus ce qui est mal aux yeux de l'Éternel afin de l'irriter. C'est comme s'il voulait défier Dieu. Et c'est comme s'il voulait, je ne sais pas, rechercher quelque part le châtiment de Dieu. Je ne sais pas quelle était son intention. C'est terrible. Quoi qu'il en soit, ce n'était pas des petites bricoles. Hein. Faire passer son fils par le feu, mettre des idoles dans le temple, dans la maison de Dieu, c'est quand même vraiment malsain et provocateur. Et on sait que donc il va se passer des choses terribles. Et on va le prendre, on va égorger ses enfants devant ses yeux. On va, j'essaie de faire mémoire parce que j'ai pas lu depuis un moment. On va lui crever les yeux si ma mémoire est bonne. Oh, il se retrouve là dans son cachot là-bas, chez l'ennemi. Il est complètement brisé. Et la Bible dit dans 2 Chroniques 33, lorsqu'il fut dans la détresse, il implora l'Éternel son Dieu. Et il s'humilia profondément devant le Dieu de ses pères. Il lui adressa ses prières. Et l'Éternel se laissa fléchir, exauça ses supplications. Et le ramena à Jérusalem dans son royaume. Et Manassé reconnut que l'Éternel est Dieu. Hein? Après cela, il bâtit en dehors de la ville de David, à l'occident, vers Guillon, dans la vallée, un mur qui se prolongeait jusqu'à la porte des poissons. Et donc, bon, je passe un peu plus loin. Il fit disparaître de la maison de l'Éternel les dieux étrangers et l'idole. C'est 2 Chroniques 33. Et il renversa tous les autels qu'il avait bâtis sur la montagne de la maison de l'Éternel et à Jérusalem. Il les jeta hors de la ville. Il rétablit l'autel de l'Éternel, y offrit des sacrifices d'action de grâce, etc. Encore un exemple de miséricorde. Et je pourrais encore certainement égrener d'autres passages, trouver d'autres passages. On pourrait ensemble retrouver ces choses sans problème. Oui, la Bible relate des événements tragiques. Oui, elle ne cache pas la vérité. C'est dur. Parfois c'est pour des personnes, parfois c'est pour des peuples, pour des nations. Mais ces drames ne sont pas du fait de la volonté de Dieu. Permettez-moi de le dire ainsi. Mais c'est plutôt issu de la désobéissance de l'homme à l'égard de Dieu. Et il ne faudrait pas faire des raccourcis dans nos têtes en disant « Oh Dieu, il est dur, il est méchant, il est carré, oh qu'il est dur. » Oui, mais regardez, pendant des siècles, pendant de nombreuses années, Dieu avertit, Dieu prévient. Et les hommes, malgré tout, des fois choisissent à côté. Et Dieu parle tantôt d'une manière et tantôt d'une autre. Et des fois, il parlera d'une manière qui peut paraître dure, mais c'est pour le salut de la personne. Alors, oui, il y a des parenthèses de miséricorde au milieu de plusieurs menaces. Et ça nous prouve bien que l'intention de Dieu, ce n'est pas de détruire, même si des fois il prend des positions franches et directes et dures, mais c'est de sauver, de ramener. Comme Manassé, quand il est dans sa... Moi, je ne comprends pas cette miséricorde de Dieu, mais je m'en réjouis parce que quelque part, on a le même bénéfice. Il a fait des choses qui étaient horribles, horribles, Manassé. Et quand il se repent, Dieu le rétablit. C'est la grâce de Dieu, c'est l'amour de Dieu. Donc, c'est une réalité. Ici, il dit, on a vu dans Osée chapitre 2, verset 8, ça commence, c'est pourquoi. C'est pourquoi. En fait, c'est en conséquence de. Parce que, voilà, c'est pourquoi. Et on voit ce que Dieu va faire, il va mettre ses épines, ce mur, etc. C'est pourquoi. Non, Dieu n'est pas passif, et ça c'est mon deuxième point. Dieu est à l'œuvre. Dieu est à l'œuvre. Souvent, on pense que Dieu, on peut penser, on peut tomber dans cette erreur de croire que Dieu prend du temps et un peu lent. On peut penser que Dieu, on aimerait des fois qu'il réagisse vite. Mais vous savez, Dieu est à l'œuvre. Et même si ça semble un moment compliqué, Dieu n'est pas passif comme beaucoup de personnes le pensent, mais Dieu poursuit son dessein pour l'humanité. Ne vous inquiétez pas, un enfant qui pleure, ça arrive. Voilà. Écoutez bien, plus mon petit-fils, alors ne vous inquiétez pas, parce que je vois que tout le monde est inquiet. Revenez avec moi. Dieu poursuit son dessein pour l'humanité. Et même si cette dernière tente de l'ignorer, Dieu poursuit toujours le même plan. Dieu poursuit toujours son plan de salut. Dieu cherche à toucher le cœur des hommes. Il va s'opposer à ceux qui résistent. Il va être dur avec ceux qui résistent pour les amener non pas à être détruits, mais pour revenir à lui, pour rentrer en eux-mêmes et réfléchir. On va voir ces choses tout à l'heure. Et on le voit dans le récit concernant la femme d'Osée. On sait que dans le livre de Job, il est dit que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Mais malheureusement, on n'y prend point garde. Face aux actualités, beaucoup de grands chefs de ce monde, beaucoup de gens qui ont des responsabilités, pourraient, peut-être ils y réfléchissent, mais il y a comme une incompréhension, parce que tant qu'on n'est pas né de nouveau, on ne comprend pas les choses spirituelles. Mais il devrait y avoir une réflexion de dire, mais ce qui nous arrive, c'est lié à quoi ? Est-ce qu'on ne désobéit pas à Dieu ? Mais cette réflexion n'existe plus aujourd'hui. On n'y est plus. Et Dieu va être obligé de prendre des conditions, prendre des positions qui sont les siennes, qu'on respecte. Il est Dieu et il fait comme il entend. Vous savez, la Bible, remarquez, et on le voit, que la Bible parle du peuple d'Israël, après de Juda, il se divise. Et on remarque bien, facilement, que Dieu a œuvré pour le peuple d'Israël, même si ce dernier a désobéi. Il a toujours, vous voyez que c'est clair, c'est évident, même si on n'est pas le grand lecteur de la Bible, mais le peu qu'on peut lire de la Bible, on voit bien dans l'Ancien Testament que Dieu s'est engagé avec le peuple d'Israël, et il continue de s'engager. D'ailleurs, il continue jusqu'au bout, hein, parce qu'il y a encore des événements qui vont arriver, et qui sont décrits, qu'on n'a pas vus encore, et qui montrent qu'Israël est encore là. Hein, il y a Israël et l'Église, il n'y a pas seulement un Israël, le nouvel Israël c'est l'Église, c'est pas biblique ça. Bon, je ferme la parenthèse. Dieu poursuit toujours son dessein, son plan, sa volonté. Il est toujours à l'œuvre. Et vous savez quel est le dessein principal du Seigneur, de Dieu ? C'est que nous soyons réconciliés avec lui par Jésus. Et ça, c'est le désir pour l'homme, la femme, pour l'individu personnellement, une réconciliation. C'est ce que dira l'apôtre Paul, je vous le lis dans une version différente, Colossiens 1:20. Et c'est par Jésus qu'il a voulu réconcilier avec lui-même l'univers tout entier, vous vous rendez compte ? Ce qui est sur la terre, ce qui est au ciel, en instaurant la paix par le sang que son Fils a versé sur la croix. Or vous, autrefois, comme certains l'ont dit dans leur prière, vous étiez exclus de la présence de Dieu. Vous étiez ses ennemis à cause de vos pensées qui vous amenaient à faire des œuvres mauvaises. Mais maintenant, Dieu vous a réconcilié avec lui par le sacrifice de son Fils qui a livré à la mort son corps humain pour vous faire paraître saint, irréprochable et sans faute devant lui. Le dessein principal de Dieu, que ce soit pour Israël, que ce soit pour l'humanité tout entière, c'est qu'on soit réconcilié avec lui. C'est là le dessein principal. Et s'il y a des bien-aimés ce matin qui que vous connaissez pas la grâce de Dieu, sachez que l'intention de Dieu pour vous, comme pour tout être humain, sans exception de personne, sans différence et distinguo de ce qu'on a fait ou pas fait, mais plutôt c'est dans son amour, il a voulu nous réconcilier avec lui. Et la question que peut se poser, je vous pose, mais ne répondez pas, êtes-vous réconcilié avec Dieu ? Vraiment. Et l'apôtre Paul dira, je vous en supplie, soyez réconcilié avec Dieu. Parce que pourquoi on est réconcilié ? Ça veut dire qu'il y a un pardon qui doit être associé. Vous allez dire, mais peut-être moi j'ai jamais bafoué Dieu, j'ai jamais critiqué Dieu. Oui, mais le péché, c'est bafouer Dieu. Se comporter mal, c'est s'opposer à Dieu. Donc il y a quelque part un besoin de réconciliation. Et la seule réalité de la réconciliation, c'est l'œuvre de Jésus. Le deuxième principal, c'est que nous soyons réconciliés avec Jésus. Alléluia. Et qui que nous soyons, que nous soyons super cultivés ou pauvres d'esprit, que nous soyons super riches ou mendiants, Dieu veut nous réconcilier avec lui par Jésus-Christ. Vous savez pourquoi ? Parce que l'amour de Dieu pour chacun d'entre nous est incroyable et extraordinaire. D'ailleurs, il dira au chapitre 11 du même livre d'Osée, il dira ceci, « Quand Israël était jeune, je l'aimais. » Vous voyez cette relation avec l'image de Gomère, donc la femme et son mari, on le retrouve dans le livre d'Osée, au chapitre 11, verset 1. « Quand Israël était jeune, je l'aimais et j'appelais mon fils hors d'Égypte. Mais ils se sont éloignés de ceux qui les appelaient. Ils ont sacrifié au Baal et offert de l'encens aux idoles. C'est moi qui guidais les pas d'Éphraïm, le soutenant par ses bras, et ils n'ont pas vu que je les guérissais. Je les tirais avec des liens d'humanité, avec des cordages d'amour. » C'est bizarre cette expression. « Je les tirais avec des liens d'humanité, avec des cordages d'amour. » C'est comme si Dieu attrapait, vous savez, cette personne qui est en train de pas aller bien, d'être dans un trou, elle est là, plus bas, elle est tombée. Qu'est-ce qu'il fait ? Dieu jette. Vous savez comment le prophète Jérémie, à un moment donné, il va être sorti par Ebed-Melech et 30 hommes. On jette ce cordage, cette corde, on met des haillons sous les aisselles pour pas le blesser, puis on le sort de la fosse et il y avait de la boue. Était là, était mal, et Ebed-Melech sera béni en conséquence d'ailleurs par la suite. Il sera épargné. Hein. Et l'amour de Dieu pour chacun d'entre nous, il fait ça. Il nous sort de nos états. Il nous sort de notre péché, il nous sort de notre... C'est la réalité de l'amour de Dieu. L'amour de Dieu a été manifesté, dira l'apôtre Jean, envers nous, en ce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde afin que nous vivions par lui. Ce matin, quelqu'un peut se dire, mais c'est pas une évangélisation là, ce matin. Oui, mais quand même, c'est toujours d'actualité. C'est toujours une réalité. Oui. Les desseins de Dieu, c'est que je sois réconcilié parce qu'il m'aime, parce qu'il veut. Je comprends pas, mais je me réjouis. Je comprends pas cet amour que Dieu porte tellement à l'humanité. Je le comprends pas. Tellement têtu parfois, on est tellement désobéissant à l'égard à l'exemple du peuple d'Israël. Hein, vous savez, on n'est pas, c'est peut-être pas les mêmes idoles, mais il y a des idoles des fois qui sont là. Et Dieu fait grâce malgré tout, il nous appelle à revenir. Non pas il dit pas, c'est pas grave. Il nous dit, oh, c'est grave, mais tu peux revenir. Abandonne, reconnais. Et revient. La raison, donc, c'est l'amour qu'il a pour chacun d'entre nous. Dieu nous aime. Pas d'un amour, vous savez, sentimentaliste, mais un amour profond. Un amour qui fait que, quoi qu'il advienne, il nous aime quand même. Mais aussi sa justice. C'est pas un amour, je te pardonne tout, bon, t'inquiète pas, c'est pas grave. Non, le péché, c'est le péché. Et Dieu est le péché, méprise le péché. Mais son amour permet qu'il y ait une repentance, une possibilité de revenir vers lui. Et ça, c'est quelque chose d'extraordinaire. Parce que Dieu fait grâce. Hein. Alors, il fait tout pour nous réconcilier avec lui. Et il va utiliser les temps et les circonstances pour nous parler. Il va utiliser les moments. J'aime relire souvent ces passages, vous connaissez, de Daniel, vous savez, le prophète Daniel, au chapitre 2, quand il va dire, alors que le roi Nebuchadnezzar a eu un songe, et il s'interroge, il ne sait pas trop, il est perturbé, il est vraiment bouleversé, et puis on demande à tous les charlatans d'essayer d'exprimer ce songe, de comprendre ce songe et de l'exprimer, personne ne trouve. Et Daniel demande un sursis, dirons-nous, parce qu'il a été dans l'affaire qu'après. Et nous a dit, le secret fut révélé à Daniel dans une vision pendant la nuit. Et Daniel bénit le Dieu des cieux. Daniel prit la parole, il dit, béni soit le nom de Dieu, d'éternité en éternité. À lui appartiennent la sagesse et la force. C'est lui qui change les temps et les circonstances, qui renverse, établit les rois, qui donne la sagesse aux sages et la science à ceux qui ont de l'intelligence. Il dit quelque part que tout ce qui se passe dans ce monde, il y a quand même Dieu est au-dessus. Et c'est des fois, nous on ne comprend pas pourquoi, par exemple, tel dictateur en Corée du Nord est toujours actif. Je ne comprends pas. Pourtant, on prie les uns les autres pour la Corée du Nord. Hein. Il y a un représentant de Porte Verte ici. Hein, et il pourrait vous donner quelques mots là-dessus, bien sûr. Mais on pourrait prier pour ça. Mais Dieu est souverain. Et il fait les choses dans le temps qu'il veut. Et dans les circonstances, il les met en place comme il entend. C'est pour ça que le livre des Proverbes dit « Le cœur du roi est un courant d'eau dans la main de l'Éternel, il incline partout où il veut. » Le cœur du roi est un courant d'eau dans la main de l'Éternel. C'est-à-dire, vous voyez bien, Dieu a la main sur ce qui se passe dans ce monde. Vous allez me dire « Ouais, mais et pourquoi ça ne se passe pas ?» Écoutez, on n'est pas Dieu, nous. Hein. Est-ce que vous savez tout ? Moi, je ne sais pas tout. Pourquoi ce plan est comme ça ? Pourquoi il permet certaines choses et à d'autres endroits, non ? Je ne sais pas. Mais ce que je sais, c'est que son plan est parfait et sa volonté est bonne. Et je sais que si des fois même c'est dur, c'est toujours pour que nous apprenions quelque chose, pour que nous comprenions quelque chose. Je voudrais vous donner quelques exemples où Dieu est à l'œuvre et maintes fois il démontrera à son peuple, alors que ce dernier est sous des menaces tout à fait terribles de nation, de mort, de meurtre. Et Dieu va le délivrer. Sa volonté est que le peuple, quand il fait ça, c'est que le peuple soit protégé, mais en même temps qu'il ait encore plus confiance en lui. Et maintes fois, Dieu va secourir le peuple hébreu, le peuple d'Israël, le peuple de Juda, va secourir son peuple. Et maintes fois, son peuple désobéit. C'est quand même... Heureusement que Dieu n'abandonne pas et ne change pas de plan au fur et à mesure. Pas vous, mais moi, il m'aurait abandonné depuis un moment. Mais dans sa fidélité, il ne nous abandonne pas. Vous savez, le livre d'Esther... Ce peuple juif devait être détruit. C'était là l'intention d'Aman, de vraiment éradiquer. L'antisémitisme était déjà prégnant depuis un moment. Mais Dieu soit béni, il y a eu un renversement de situation miraculeux. Miraculeux. Qui fait que le jour où il devait être maltraité, violenté, ce jour qui était promulgué par le roi, entériné par le roi, hein, sous les conseils formidables d'Aman, voici que Dieu va faire grâce parce qu'il va mettre en place toute cette réalité de la présence d'Esther, qui est juive, de Mardoché, et cette femme, cette nouvelle reine Esther, va avoir un rôle important pour justement être un objet de délivrance dans la prière, dans l'intercession, mais aussi dans la demande auprès du roi. Il va y avoir un changement, un revirement de situation. Et c'est Aman qui avait prévu de tuer l'oncle d'Esther, Mardoché. Il avait fait une potence, il avait tout préparé dans sa maison, il s'était tout content. On va le finir, celui-là, ce Mardoché. C'est pas écrit comme ça. Hein. Mais ils étaient presque heureux de dire c'est fini de ces juifs, etc. Voici qu'en quelques heures, en quelques minutes, tout le plan va se renverser. L'ennemi fait une œuvre qui le trompe. Et c'est Aman qui va être pendu à la place de Mardoché. Avant, il va être humilié. Hein, parce qu'il doit prendre le cheval et mettre Mardoché sur le cheval et dire des gloires. Quelque part, des choses, il est humilié, mais après, il va finir. Et ceux qui avaient prévu de violenter dans tout le royaume les juifs, les choses se sont inversées. Et si les juifs, s'ils étaient menacés, ils pouvaient attaquer, même détruire la famille, dépouiller la famille qui les attaquait. C'était bizarre, ça. C'était bizarre, mais c'est la réalité de Dieu. Dieu a inversé certaines choses. D'autres fois, dans un combat, il nous est dit, on s'interroge, doit-on poursuivre l'ennemi, etc. Et dans 2 Samuel 5:24, il est dit, quand tu entendras un bruit de pas dans les cimes des mûriers, alors hâte-toi, car c'est l'Éternel qui marche devant toi pour battre l'armée des Philistins. Dieu n'abandonne pas son peuple en disant, à peine il y a quelque chose qui va pas, il nous abandonne. Non, il demeure fidèle, mais il l'éduque, il châtie, il redresse et il nous amène plus loin. Et ici, dans cette situation, il s'interroge, mais Dieu ne les laisse pas comme ça. Il dit, t'entendras des pas dans les cimes des mûriers. Je ne sais pas ce que c'est, moi. Peut-être du vent, je ne sais pas. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Quel était ce bruit, je ne sais pas. Mais eux, ils ont reculé. Et ils ont été victorieux sur les Philistins. Hein, 2 Samuel 5:24. Une autre fois, allez, je vais arrêter parce que je vais prêcher longuement. Je finis. Et bientôt. Une autre fois, la grêle. Il nous a dit qu'ils fuyaient, c'est dans Josué chapitre 10, verset 11, comme ils fuyaient devant Israël et qu'ils étaient à la descente de Beth-Horon, l'Éternel fit tomber du ciel sur eux de grosses pierres jusqu'à Azeka. Ils périrent. Ceux qui moururent par les pierres de grêle furent plus nombreux que ceux qui furent tués avec l'épée des enfants d'Israël. Mes amis, quand Dieu est à l'affaire, Dieu a toute autorité. Le bras de fer, il est gagné d'avance. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est fini pour les ennemis. Il dit, c'est pourquoi. Ici, pour Gomer, si on revient à ce texte, pour Gomer, Dieu va intervenir pour interrompre le cheminement sur la voie de l'adultère, va mettre en place des choses pour éviter la continuité de cela. Et il va y mettre une limite, une impossibilité. Il nous a dit qu'il va fermer, et c'est pour celui qui enregistre, le chemin fermé, comme ça au moins le titre, parce que des fois on me demande et j'oublie de le donner. Fermer son chemin avec des épines et élever un mur. Mais il nous a dit, elle poursuivra, elle va essayer de continuer, mais elle n'y arrivera pas. Hein? Elle ne les attendra pas. Elle cherchera, ne les trouvera pas. Il y a quelque chose qui va se mettre à l'écart. Il y a comme une distance que tu vas permettre dans ces circonstances. Donc, Gomer illustre bien l'attitude de l'individu pécheur. De cet homme et cette femme qui cherche à tout prix être satisfait, comblé dans son cœur. Il va se trouver des amants, vous comprenez, ou des amantes. C'est une image, hein. Il s'entête poursuivant de faux intérêts, il va chercher dans le monde tout un tas de satisfactions pour essayer de combler le mal-être intérieur. Alors, on fait tout un tas de choses, ça va de tous les sens. Hein, et c'est incroyable. Et la Bible dit que l'amour de l'argent peut être un exemple. Hein, l'amour de l'argent, une racine de tous les maux. Et quelques-uns, en étant possédés, se sont égarés loin de la foi. Se sont jetés dans bien des tourments. Mais c'est pourquoi, et puis il dit, voici. C'est pourquoi... À cause de ça, c'est pourquoi je vais faire ça, mais voici, et voici, c'est à cause de cette manière d'agir, il va faire concourir les circonstances à ce but. J'irai, dira-t-elle, et je retournerai à mon premier mari. C'est un retour vers. J'ai abandonné Dieu, j'ai souvent, délaissé Dieu, et Dieu permet, malgré tout, dans son amour, qu'il y ait encore des circonstances pour me ramener, pour m'appeler. Quelqu'un disait dans sa prière tout à l'heure, Dieu appelle, oui, Dieu appelle. Dieu t'appelle à revenir. Dieu t'appelle à toujours venir à plus près de lui. Dieu t'appelle à dire, comprends que les circonstances que je te fais passer, c'est pas innocent, comprends-les. Peut-être que tu ne les comprends pas pleinement, parce que Dieu, c'est la dimension de Dieu, donc ça nous échappe. Mais comprends que ce n'est pas un hasard que ces circonstances dures se passent devant toi. Ces choses qui sont là, ces portes qui sont fermées, ces choses que tu dis, mais c'est bizarre, on dirait que ce n'est plus possible. Mais comprends que Dieu est en train de t'appeler et te rappeler à lui. Comprends ça. Voici. Voici. Vous savez, le prophète Ésaïe dira, Ésaïe chapitre 31, verset 6, « Revenez à celui dont on s'est profondément détourné. Revenez à celui dont on s'est profondément détourné, enfant d'Israël. » Dans le prophète Sophonie, il y a cette expression que je citais une fois avec les conseils spirituels il y a longtemps, quand on travaillait sur le fils prodigue d'ailleurs, on s'était mis en travail, j'avais dit, regardez dans Sophonie, il dit, rentrez en vous-même, examinez-vous, nation sans pudeur, etc. Cherchez l'Éternel, vous tous, humbles du pays, qui pratiquez ses ordonnances, recherchez la justice, recherchez l'humilité. Rentrez en vous-même, examinez-vous. L'intention de Dieu et le fait qu'on se rencontre, qu'on partage le pain le vin, c'est jamais pour seulement pratiquer quelque chose. C'est un appel à notre mémoire, mais c'est aussi un appel à nous positionner encore. C'est un appel à, peut-être s'il est nécessaire de revenir, à revenir. C'est un appel à se repentir parfois. Parfois c'est un appel à proclamer, à se réjouir avec Dieu, mais souvent c'est un appel pour nous dire où tu en es. Où tu en es dans ta foi. Et quand Dieu fait ces choses, quand Dieu met des barrières, c'est pas pour nous humilier, c'est pour nous libérer. C'est pour nous faire changer, nous transvaser. Pour nous amener d'un endroit stérile, un endroit de vie, un endroit de mort, à l'endroit de la grâce. C'est la gloire de Dieu. Dieu veut faire cela. Hein ? L'appel de Dieu pour nous, c'est que nous cherchions humblement. Quelqu'un qui est humble, c'est quelqu'un qui dit, qui sait où il en est. Il dit pas, ouais, tout va bien, alors qu'il est triste comme une pierre. Je ne sais pas si c'est triste une pierre, mais il n'est pas dans l'apparence. Quelqu'un qui est humble, il dit la vérité. Il se dit la vérité à lui et il sait comment il est. Mais il dit aussi, il reconnaît la vérité de son Dieu, l'amour de son Dieu. Cherche. Rappelez le fils prodigue, étant rentré en lui-même, il se dit combien de mercenaires. Il est revenu vers son père. C'est un retour à la maison de Dieu. C'est un retour à la grâce de Dieu, c'est un retour à la vie de Dieu, et Dieu nous aime. Quel amour Dieu nous manifeste. Je suis en conclusion. Ouf, pour vous. Quel amour Dieu nous manifeste-t-il ? Comme le berger, le bon berger dont il a été fait mention tout à l'heure à l'introduction de la scène, il cherche sa brebis jusqu'à ce qu'il la trouve. Qu'elle accepte de revenir avec lui dans la bergerie. Quand il dit jusqu'à ce qu'il la trouve, c'est pas que la brebis, peut-être elle ne sait pas où il faut aller. Elle sait qu'il faut aller vers Dieu, elle sait qu'il faut vivre l'Église, mais elle n'a pas envie à ce moment-là. Mais lui, il va mettre toute sa vie, ses circonstances, il va mettre en place tout un plan, un programme qui est le sien, qui me surprend toujours, qui est formidable. Dieu parle et Dieu va permettre que la personne revienne à lui parce qu'il a encore de l'amour pour cette personne. Cette personne ne s'aime pas elle-même parce qu'elle dit « Mais moi, je n'ai pas obéi à Dieu, j'ai déshonoré Dieu. » Mais oui, mais Dieu t'aime quand même. Et ça, je ne peux pas l'expliquer, mais c'est Dieu. Et Dieu désire que tu viennes vers lui. Comprenez et comprenons qu'il n'y a pas de hasard dans ce que nous vivons. Et qu'au-dessus des temps, il y a le maître des temps et des circonstances. Il y a celui qui est à l'œuvre. La Bible dit que l'Éternel, et je finis par ce verset que vous connaissez, psaume 14, verset 2, « L'Éternel, du haut des cieux, regarde les fils de l'homme pour voir s'il y a quelqu'un qui soit intelligent. » Qui cherche Dieu. Cherches-tu Dieu ce matin encore ? Ou es-tu encore en dehors de ce que Dieu voudrait pour toi ? Si c'est ton cas, cherche Dieu. Il t'appelle à aller plus loin. Et regarde combien de fois il met des circonstances pour t'empêcher d'aller trop loin dans ce que tu fais, pour que tu reviennes à lui, parce qu'il t'aime. Il t'aime. Il t'aime d'un amour profond. Prions ensemble quelques instants. Alléluia. Prions dans votre cœur, priez à mi-voix peut-être, priez le Seigneur. Je sais que c'est fini, hein, dans quelques minutes, mais prenons ce temps encore, quelques minutes, pas longtemps, quelques minutes vraiment de cœur à cœur avec le Seigneur. Seigneur, sonde nos cœurs, Seigneur nous aime. Que vous soyez jamais, que vous compreniez, que c'est la première fois que vous entendez l'Évangile, eh bien, je dirais,
comprenez que Dieu vous aime, il a tout donné en Jésus-Christ. Comprenez-le spirituellement, accrochez-vous, cherchez Dieu, venez écouter les messages ici de ce que le Seigneur fait pour nous ou à d'autres endroits, mais vraiment cherchez Dieu et il se laissera trouver à vous. Mais aussi, dans nos vies, peut-être on est un peu comme Gomère, on est peut-être été idolâtre, c'est-à-dire on a laissé d'autres choses prendre la place première, d'autres comportements. On sait qu'on était, peut-être vous savez que vous saviez qu'à ce moment-là, vous étiez à côté de la plaque de ce que Dieu voulait pour vous, mais votre nature fait que votre nature charnelle a repris le dessus, vous avez fait ces choix mauvais et vous le regrettez amèrement. Vous êtes mal, vous accusez. Et l'ennemi, d'ailleurs, vous marche bien dessus en disant, tu vois, gna 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 gna. Et il est celui qui est le menteur. Parce que Jésus, ce matin, vous appelle à reprendre le bon chemin. Il t'appelle à revenir vraiment sur son chemin. Parce qu'il t'aime, parce qu'il t'attend, parce qu'il a tout mis en place pour que tu reviennes. Regarde, il a ouvert ce mur-là qui est là, ces épines, mais il y a un autre côté où tu peux passer. Et ce passage, c'est venir à lui, c'est revenir vers lui. Comme ce fils qui dit, entre lui-même, je me lèverai, j'irai vers mon père, j'ai péché contre toi et contre le ciel, etc. Je suis plus digne d'être appelé ton enfant. Mais le père lui donne la même place qu'avant. Il lui dit pas, c'est vrai, t'as fauté, tu es un demi-chrétien. Hein. Non, on lui dit, mettez-lui une robe, un anneau, un turban. Il lui donne toute cette place qu'il avait délaissée, qu'il avait bafouée. Dieu veut te rendre cette place. J'insiste peut-être parce que je crois que c'est nécessaire. Mais vraiment, Dieu t'appelle. Tu es libre de faire comme tu veux, bien sûr. C'est ton choix, ta responsabilité. Mais le Seigneur te parle ce matin. Dieu t'appelle. Alléluia, nous te bénissons, Seigneur, pour cet amour incommensurable. C'est pas qu'une fois que tu nous appelais à revenir vers toi, mais maintes fois, lorsque nous sommes détournés, lorsque nous avons fait des choix qui te déshonoraient, tu appelles à la repentance, tu appelles à la vie. Tu ne veux pas que nous nous perdions. Tu ne veux pas que nous égarions, que nous perdions du temps, mais tu veux nous ramener plus près de toi. Et Seigneur, je te prie de bénir celui, celle qui se reconnaît dans son cœur et qui dit « c'est moi ». Mais Seigneur, je te prie que ce ne soit pas juste une prise de conscience de qui on est, mais qu'il y ait une décision pour revenir à toi dans la repentance. Et que dans ta grâce, tu bénisses ses bien-aimés. Tu n'es pas celui qui détruit, qui écrase, qui extermine l'homme. Tu es celui qui veut que l'homme ne meure pas. Tu dis que tu ne veux pas que le méchant meure, mais tu veux que le méchant vive. Et comment peut-il vivre s'il ne se repent pas? Alors Seigneur, bénis ses bien-aimés. Tu les aimes comme tu nous aimes tous. On n'est pas meilleurs les uns que les autres, on est juste des enfants graciés. Et nous t'en sommes reconnaissants. Nous te donnons toute la gloire. Donne-nous de comprendre aussi quand nous vivons, les circonstances et temps que nous vivons. Des fois, nous ne comprenons pas les choses qui nous arrivent, nous ne comprenons pas les situations. Mais Seigneur, donne-nous ton intelligence. Donne-nous te chercher dans ces moments-là. Et même si je ne comprends pas, de te faire confiance malgré tout. Parce que tu es Dieu au-dessus de tout. Amen. Amen.